Coconut Podcast. Saison 5. Présenté par le groupe Quartier. Avec votre animateur, Alain Jo.
Mesdames, messieurs, bonjour, Koué. Écoutez, c'est tout un plaisir que de vous retrouver après cette saison estivale, en espérant que vous avez passé du bon temps, profité du soleil, car ces temps-ci, il fait un peu plus frisquet. C'est une grande joie pour nous d'être avec vous aujourd'hui dans nos nouveaux studios à Nomad Life TV. Oui, Coconut Podcast prend de l'expansion. Et pour entamer cette nouvelle année 2023, nous abordons la question haïtienne, la crise que Haïti est en train de vivre actuellement. Et pour pouvoir répondre à nos différentes questions, on reçoit des invités, les uns plus intéressants que les autres. Sans ne plus tarder, messieurs, dames, je vais vous présenter notre première invitée. Je peux vous dire que cette personne, il est connu de tous au Québec. Du moins pour ceux qui prennent le temps de lire les grands quotidiens du Québec, entre autres La Presse Plus sur votre tablette. Messieurs, dames, il est journaliste, collaborateur spécial à La Presse. On a la chance de l'entendre au téléjournal, entre autres à Radio-Canada. Il sillonne le pays de Dessalines, Toussaint, Pétion, comme s'il y était né. Il est créolophile, amoureux de la langue créole, polyglotte également. Il a des origines polonaises. On sait qu'il y a des Polonais qui se sont installés en Haïti à un certain moment. C'est quand même intéressant. Messieurs, dames, sans ne plus tarder, accueillons à Coconut Podcast International, 5e saison, je dis bien, Étienne Côté-Paluc, messieurs, dames. Étienne Côté-Paluc, Koué.
Mon Koué.
Comment vas-tu?
Bien, merci. On se maintient, comme on dit.
On se maintient. C'est pas évident. On sait que toi, tu es pas mal, durant les 12 mois de l'année, une partie de ton temps en Haïti. Là, pour le temps des fêtes, Coconut Podcast, on a réussi à mettre le grappin sur toi. Qu'est-ce que ça te fait de vivre en Haïti, mais surtout la comparaison, tu peux faire le fait de te retrouver à maison, avec la famille, au Québec, dans le froid. Comment tu te sens, le fait d'être au Québec, là?
Mais c'est sûr qu'il y a le froid, mais bon, physiquement, c'est sûr qu'il faut s'adapter au froid. Mais comme on a grandi, comme j'ai grandi ici, on connaît les trucs, puis si on fait nos erreurs, on sait pourquoi on a fait nos erreurs. Mais non, c'est sûr que la plus grosse différence, c'est sûr, c'est l'abondance, parce que ici, je suis entouré de gens qui réussissent à vivre de leur travail, puis à subvenir à leurs besoins. Tandis qu'en Haïti, je suis entouré des fois des gens qui sont capables, mais aussi beaucoup de gens aussi qui sont pas nécessairement capables de subvenir à leurs besoins, des fois primaires. Et puis, tu dois composer avec ça chaque jour. Donc, c'est sûr qu'il y a une certaine abondance, comme je dirais ici, qui est quand même un flow beaucoup plus facile à gérer au quotidien. Une facilité, comment je pourrais dire aussi, dans comment les choses sont structurées. Il y a de l'électricité 24 heures par jour, il y a de l'Internet haute vitesse partout. Donc, il n'y a rien à gérer.
Mais ça ne te choque pas? Il n'y a pas quelque chose qui te choque en voyant un peu le fait que le Nord, hein, les pays occidentaux, on soit dans cette abondance, puis même qu'on se lance dans du gaspillage par moment. Toi-même, avec ce regard, est-ce que ça te gêne?
Non, dans le sens que c'est ce choc-là qui m'a amené à comment je pourrais dire, m'établir en Haïti aussi longtemps, puis à vouloir montrer la réalité haïtienne d'un côté plus humain depuis longtemps, c'est justement ce choc-là. Donc, c'est ce que j'essaie à tous les jours de démantibuler, de reconstruire d'une autre manière pour pouvoir exprimer les ressemblances, surtout entre les deux populations, puis l'humanité derrière chaque personne qu'on rencontre en Haïti. Donc, c'est ça qui est le moteur un peu même de mon action, une bonne partie de mon action en Haïti, en tout cas.
Superbe. Et selon les recherches de Coconut Podcast, très rapidement, pour toi, le travail que tu fais, c'est ta façon de donner un coup de pouce à Haïti, car tu dis qu'il est important que la communauté internationale soit au courant de ce qui se passe en Haïti. Et on sait que tu appuies tout le mouvement journalistique également en Haïti en développant des réseaux très étroits, en offrant du mentorat, du coaching aux journalistes en herbe, plus jeunes, à en devenir. Le travail journalistique qui est le tien, est-ce que c'est ta façon d'aider Haïti, entre autres?
Bon, d'aider, j'aime pas l'idée d'aider Haïti au sens où l'étranger vient aider le pays, mais en tout cas, certainement de rendre les relations entre les pays plus grandes et plus axées sur un échange et non justement un mentorat ou une aide. C'est sûr qu'en Haïti, t'es forcé, dès que t'as un peu plus d'expérience que la moyenne, à faire du mentorat, puis c'est pas seulement moi-même, c'est tous les Haïtiens, mais aussi qui ont plus d'expérience, qui doivent partager. Ça fait un peu partie de nos tâches quotidiennes là-bas, un peu tout le monde. Mais cette idée-là, vraiment, d'accompagner puis de présenter Haïti d'une manière québécoise, c'est-à-dire d'avoir de comprendre que la vision québécoise ou occidentale, elle a un biais, évidemment, comme toutes les cultures ont leur biais. Ça, on ne rentre pas dans les questions de colonialisme, évidemment, là, mais il y a un biais et puis il faut aller plus loin que ce biais-là. Bien, il faut expliquer dans les mots que les gens peuvent comprendre qu'est-ce qui se passe, dans les gens, comment les expressions qui sont dites, qu'on parle des gens. Comment tu photographies aussi, que tu filmes les gens, comment le faire. Bien, tout ça est important dans le processus. Donc, pour moi, c'est à travers ça aussi que j'insiste sur ce genre de points-là. C'est vraiment ça ma mission, okay, à la base.
Et de poursuivre cette mission que tu t'es donnée, hein, tu as quand même fait des études, tu as travaillé en journalisme au Québec, de travailler en Haïti, de pratiquer ton travail en Haïti, sachant qu'il y a des dizaines, plusieurs de tes collègues, hein, haïtiens qui ont été assassinés là, récemment. Est-ce qu'il n'y a pas une petite peur en quelque part à l'intérieur de toi, ou si tu es vraiment ce genre de journaliste à la René Lévesque là, hein, qui va sur le front en quelque sorte?
On n'était pas avec René Lévesque, on ne sait pas jusqu'où il est allé. Mais oui, on le sait un peu dans ce qu'il y a des reportages, mais je veux dire oui et non. C'est-à-dire qu'il y a une manière responsable de faire son travail de journaliste, puis justement en tentant d'éviter le risque le plus possible. Puis en ce moment, en Haïti, la crise est vraiment, vraiment grave, à un point dont j'ai pas vu là, depuis les 20-30 ans que j'y vais, les plus de 30 ans que j'y vais, que j'ai jamais vu une situation comme ça. Bon, j'étais pas là non plus pendant la dictature de 90, mais...
Depuis 86, là, toi, tu te rends en Haïti avec la famille.
Oui, c'est ça. Donc, depuis que je suis tout petit, mais au début, c'était des petits voyages. Puis bon, au fil du temps, la relation s'est approfondie. Donc, il y a une situation de crise qui est jamais vue en ce moment. Et puis, il y a cette responsabilité-là face aux gens de montrer ce qui se passe, puis d'être une voix aussi pour ce qui se passe. Puis c'est ça qui me pousse. Jusqu'à présent, il y a une manière responsable, comme je le disais, de couvrir ça, de ne pas prendre de risques inutiles. Puis comme je suis là depuis plusieurs années, mais j'ai des contacts aussi dans plusieurs quartiers. Puis ma spécialité, c'est une de mes spécialités, c'est aussi certains quartiers populaires de Port-au-Prince. Port-au-Prince, où je suis allé longtemps et je vais depuis longtemps. Et j'ai des contacts beaucoup dans ces quartiers-là encore aujourd'hui. Donc, avec le téléphone, avec les gens qui peuvent venir te voir,
WhatsApp.
Tu peux éviter WhatsApp, tu peux éviter d'aller dans les... Dans certaines zones, tout en ayant une certaine compréhension de ce qui se passe sur place quand tu connais un peu comment la situation a évolué pour se rendre jusque-là. Donc, il y a certaines manières de continuer à faire le travail, puis il n'y a pas grand monde, disons, qui peuvent arriver à le faire. Donc, je me dis, bon, je vais continuer, puis, mais je ne sens pas qu'il y a un risque peut-être plus grand que d'autres qui habitent, tu sais, parce qu'il y a des gens qui habitent dans ces zones-là, à qui je parle, avec qui je collabore, et qui prennent des risques faramineux chaque jour juste à m'appeler, juste à m'écrire. Évidemment, je leur dis de le faire toujours dans des endroits sécuritaires, mais c'est comparé à ce que d'autres vivent, la situation, disons qu'elle est pire ou moins pire que d'autres, c'est-à-dire que, oui, comme journaliste, on est visé à certains moments, mais on est ici plus respecté, on est aussi, il y a une certaine noblesse à être journaliste en Haïti, et il y a beaucoup de jeunes Haïtiens qui rêvent d'être journalistes et qui sont journalistes et qui sont respectés dans ce travail-là. C'est-à-dire que c'est un travail qui est quand même respecté et que pour une bonne partie des gens, et qui est même encouragé, en tout cas.
Superbe. Toi, on sait, Étienne, que depuis l'Université de Montréal, hein, tu vas commencer à t'impliquer dans le journal étudiant.
Depuis Cégep.
Cégep même, OK. Par la suite, tu vas travailler dans de grands quotidiens. Là. Tu vas écrire au Devoir,
hein. Oui.
La Presse.
Au Voir, j'ai commencé au Voir. J'ai eu une chronique dans le Voir.
Ça, OK, ouais. Ça, c'est le journal qu'on trouvait dans le métro, des dépanneurs,
avant,
là, pour
Facebook,
les plus jeunes,
peut-être
qu'ils connaissent pas. Okay, ouais.
Okay. Au début d'Internet.
Okay, nice, nice.
De 2000 à 2004, j'avais une chronique sur les clubs et les sorties à Montréal. Une chronique hebdomadaire. J'étais tout jeune, dans la début vingtaine, et je sortais un peu partout, puis je m'intéressais à la musique
électronique. T'as été DJ aussi, puis...
J'ai su encore mes heures,
ouais, c'est ça,
un peu moins qu'avant,
ouais.
Parce que c'est un peu plus difficile.
Haïti en folie!
Oui, j'ai joué à Haïti en folie,
c'était,
DJ.
C'était gros, ça, là. Écoute, t'as plusieurs
festival.
Cordes à ton arc.
Ah. Ouais. Mais en fait, je dis toujours que c'est la musique. Tu sais, moi, au début, j'ai été critique musicale. Comme je disais, j'ai écrit sur les clubs, sur la musique de club, le rap, l'électro. Et c'était toujours un peu ma spécialité par la suite, jusqu'à ce que je vienne plus me prioriser Haïti après le séisme en 2010.
Yes.
Mais c'est ça aussi qui me garde en Haïti, puis qui me garde... comment je peux dire, qui garde le plaisir d'être en Haïti, c'est qu'il y a un amour de la musique puis qui est vraiment grand là-bas. Et c'est une musique, tu sais, à la radio commerciale, il y a des... C'est la musique électronique, c'est le rap, c'est pas ce qu'on entend, c'est le dancehall, c'est pas du tout ce qu'on entend ici à la radio commerciale, qui est très... qui n'est pas très lié à la musique de ce genre-là, si ce n'est que par de la pop extrême. Là. Des fois, il y a des relations, peut-être Sean Paul, mais sinon, c'est vraiment un genre de musique que j'apprécie. Et la musique haïtienne aussi, le rap créole et tout ça, c'est vraiment ça qui m'attache aussi. C'est la culture haïtienne qui m'attache aussi au pays. C'est plus grand que la misère au quotidien qu'on vit en ce moment. Il y a cette force-là qui est là puis qui résiste chaque jour, même si beaucoup de gens s'en vont en ce moment, malheureusement, puis je les blâme pas.
Un an après, on attend encore des résultats d'une enquête.
Oui.
Toi, en tant que journaliste, le président de la République haïtienne assassiné chez lui, à même sa résidence, ta lecture... est-ce que tu es en train de nous préparer un dossier sur... Parce que le New York Times ont quand même écrit là-dessus.
Oui.
On aimerait t'entendre. Au Canada, de temps en temps, il y a quelques journalistes de ton équipe qui en parlent un peu, mais on aimerait entendre parler de... Qu'est-ce que toi, t'en penses, ta lecture?
C'est un foutoir total. L'enquête va nulle part pour l'instant. On est rendu au cinquième juge d'instruction. Il n'y a toujours pas eu d'accusation contre les mercenaires et les autres individus arrêtés dans la semaine ou les semaines qui ont suivi l'assassinat. Ils sont toujours en prison. Et donc, pour l'instant, on ne sait pas où ça mène. Est-ce que c'est, cette fois-ci, ce sera la bonne? Peut-être, mais ça a été un choc, vraiment, en Haïti, cet assassinat-là, parce que ça a comme confirmé le fait que personne n'était vraiment à l'abri. Ça a confirmé
l'impunité,
l'impunité que tout le monde sentait dans les rues, mais qui n'était pas aussi clair que chez lui, un président se fasse assassiner.
Sachant qu'il y a de la sécurité.
Ça a été vraiment un choc pour beaucoup de gens. Et puis, depuis, son héritage n'était pas très, comment je pourrais dire, glorieux. C'est-à-dire que toutes les institutions de l'État étaient en train de se démembrer l'une après l'autre pendant qu'il était au pouvoir. Donc,
mais est-ce qu'il n'était pas en train de Est-ce qu'il n'était pas en train de vouloir déstabiliser, même détruire un système qui a la même mise sur le pays? Aujourd'hui, on voit le Canada qui essaie peut-être de poursuivre dans cette volonté du président Jovenel Moïse que de crever l'abcès un peu. Et aujourd'hui, c'était la seconde question, les sanctions canadiennes. Est-ce que tu sens qu'il y a un changement de ton à l'égard du Canada par rapport à cette situation haïtienne qui est intenable depuis maintenant près de 30 ans? Parce que, voilà, on sent qu'ils mettent des gens au banc des accusés. On attend certaines preuves quand même, là. Mais toi, j'aimerais t'entendre, est-ce qu'il était temps que le Canada fasse certains gestes de la sorte?
Depuis la mort de Jovenel Moïse, c'est un peu la communauté internationale qui est devenue
Haïti est sous tutelle?
La légitimité du gouvernement haïtien. Est-ce qu'il est sous tutelle? Bon. Ben, il est sous tutelle, oui, par le gouvernement Ariel Henry, parce que c'est un gouvernement de facto. Qui est là. Après ça, est-ce qu'il est sous tutelle internationale? Je ne sais pas, mais c'est l'international, certainement, qui amène beaucoup la légitimité du gouvernement, qui le permet de rester en place, parce qu'il continue, continue à faire affaire, il continue à faire les ententes, à faire les partenariats, parce qu'ils doivent continuer à avancer dans leur programme. Donc, c'est sûr que cette communauté-là est au centre de tout ça. Et depuis un an et demi, ils n'arrivent pas à mettre les gens ensemble et à faire comprendre l'urgence aux acteurs en présence de trouver une entente quelconque. C'est sûr qu'il y a, aidé problème que la communauté nationale aussi a de la misère à juguler, c'est l'aide technique pour la sécurité. Ils promettent depuis un an et demi qu'ils vont apporter une aide quelconque et on voit vraiment, c'est parcellaire. Il y a eu 3 blindés pour le transport de troupes qui ont été achetés par Haïti avec des fonds en partie canadiens l'année dernière. Ça a pris 6 mois avant qu'ils soient livrés, puis on en attend 15 autres depuis un an presque.
Pastor
bientôt.
Pastor Fils-Aimé, un YouTuber très connu, il dit qu'on fasse usage de drones et qu'on fasse comme Ben Laden.
Drones avec des bombes.
Oui, pour qu'on extermine ces bandits de grand chemin.
C'est sûr que cette opinion-là est partagée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on devrait arriver puis avec des mitraillettes. Mais bon, après ça, c'est des questions justement que l'international peut pas maintenir un point de vue politique. C'est-à-dire que dès qu'il y a un innocent, le premier innocent qui va mourir, ça va être un scandale, puis les Haïtiens vont se retourner contre eux. Donc, c'est pas... je vois mal l'armée canadienne débarquer à Cité-Soleil demain matin parce que c'est politiquement très difficile et même s'il y a quelqu'un de l'armée canadienne qui débarque et qui meurt, mais ici, politiquement, au Canada, ça va être difficile à soutenir aussi. Donc, ils connaissent pas ce terrain-là. C'est pas des gens qui sont habitués à vivre là-dedans. Donc, la question de comment intervenir, elle est complexe, mais je pense quand même qu'il y a des experts internationaux qui sont capables d'aider et puis qui auraient peut-être qui pourraient venir appuyer, au moins techniquement, peut-être pas nécessairement des corps de police comme tel, mais ailleurs aussi, et qui pourraient venir aider techniquement la police à avoir des stratégies qui ont de l'allure, à avoir des stratégies qui peuvent au moins libérer certains axes importants, parce qu'en ce moment, depuis que Martin Saint est bloqué, le pays, ça fait un an et demi, depuis juste un mois avant que le président soit assassiné, les banlieues de Port-au-Prince ont commencé à se bloquer et puis on pouvait plus sortir, on peut plus sortir de Port-au-Prince par la route sans prendre des risques énormes maintenant.
Quand le correctif politique?
L'international aurait pu faire beaucoup plus là-dessus puis il n'a pas été capable. Mais pour revenir à la question initiale qui est les sanctions, là-dessus, je donnerais quand même quelque chose de positif parce que ça a amené quelque chose qui est vraiment... ça a été comme un bon coup du Canada parce que ça a levé une certaine omerta sur des noms que tout le monde connaissait en Haïti, que tout le monde soupçonnait ou que même des fois avait des preuves, mais qu'on ne pouvait pas vraiment parler. Mm-hmm. En tout cas, certaines personnes dans les listes qui ont été nommées, on savait. Les journalistes, les gens sur place ne pouvaient pas en parler. Et là, maintenant, même leurs comptes en banque en Haïti sont bloqués. C'était une des conséquences. Là, ça a été annoncé dernièrement. Leurs comptes en Haïti ont été bloqués aussi. Donc,
Laurent Salvador Lamothe, il conteste là, devant les tribunaux, le tribunal fédéral.
C'est une bonne chose.
Ouais. Parce qu'il attend les preuves.
On veut les preuves. Ouais, ouais. Je veux dire, il faut que la justice puisse être rendue. Il faut montrer comment la justice peut être rendue. Tu ne peux pas accuser des gens sans avoir de preuves. J'imagine qu'ils avaient des preuves sérieuses. En tout cas, c'est ce que l'ambassadeur du Canada en Haïti a dit, qu'ils avaient des preuves sérieuses. Donc, on va voir.
Ça, mais ça, on parle de M. Sébastien Carrière.
Sébastien Carrière, c'est certainement un très bon coup du Canada l'année dernière, parce qu'il y a des conséquences qui se font sentir qui sont très claires. Maintenant, est-ce que à moyen et long terme, ça va faire boule de neige puis amener une justice plus équitable? Est-ce que ces gens-là vont pouvoir défendre leurs points? Est-ce qu'ils vont être empêchés de faire de la politique? Est-ce que... Bon, on va voir quelle va être la liste de l'ONU.
Parce qu'il y a juste le Canada, les États-Unis un petit peu pour quelques noms, mais certains pays d'Europe ou autres n'ont pas suivi là, les sanctions. Là.
Mais dans les semaines qui viennent, ou peut-être même ça sera déjà fait au moment de la diffusion, mais l'ONU a annoncé que dans le mois de janvier, il y aurait les sanctions qui seraient appliquées pour tous les pays de l'ONU. Ils pourraient venir signer.
Il y a un comité de sanctions, là, les 15 pays.
Exactement.
Là,
donc, du Conseil c'est de quand sécurité. Même quelque chose de positif qui aurait probablement dû être fait il y a longtemps. Et c'est des acteurs qu'on connaît depuis longtemps qui sont nommés, qui ont eu des accusations qui ont été faites.
Pourquoi le Canada n'a pas intervenu jadis, si on savait, je veux dire, les services de renseignement, Interpol, les grands services de renseignement avaient ces données, même en Chine, au Conseil de sécurité, ils ont dit, bon là, il serait temps qu'on donne les noms.
Mais ça vient d'une... Il y a un
volonté
drôle de,
politique, peut-être?
Il y a un drôle de mélange, mais il y a une tradition
pour terminer,
diplomatique qui impose une non-intervention dans les affaires de l'État. C'est un certain paravent dans lesquels se cachent souvent les pays occidentaux pour essayer de juste rien faire, mais de contrôler en sous-bassement leurs propres intérêts. Maintenant qu'on brise ça, c'est quelque chose qui est intéressant par rapport à Haïti. C'est peut-être l'Ukraine qui a permis ça, mais c'est ça qui, aujourd'hui, est un peu différent. On amène une approche qui est unique à ce niveau-là, puis on espère que ça va vraiment mener à quelque chose. Donc ça, c'est clair que... est-ce que la justice haïtienne va prendre le relais? Comment il va prendre le relais? Est-ce que le gouvernement haïtien va créer une commission spéciale? En fait, la ministre de la Justice, est-ce qu'elle va créer une commission spéciale pour analyser les accusations qui sont faites contre des personnalités dont le président du Sénat, dont des gens qui sont très, très haut placés dans la politique haïtienne, dans l'économie haïtienne aussi. Est-ce que ces accusations-là sont vraies ou pas vraies dans tous les cas? Il faut aller voir. Est-ce qu'ils vont pouvoir avoir des recours? Comment ces recours-là vont être faits en Haïti? Ça serait bien qu'il se fasse quelque chose. Et on attend du gouvernement, justement, quelque chose de Mme Prophète, quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Parce que, pour l'instant, la justice haïtienne est gelée et il n'y a rien qui est fait. On n'arrive pas à prendre des gros bonnets, on n'arrive pas à gérer des grosses causes parce que et tout est dans une espèce de bourbier qui fait que, justement, il y a la majorité des gens dans les prisons, 80%, c'est des prévenus qui sont là des fois depuis des années, qui sont jamais vus de juge et puis qui attendent toujours de passer devant un procès.
C'est ça. Pour terminer, on le disait, le travail journalistique n'est pas facile en Haïti. Et même de plus en plus, on sent que le travail journalistique est un peu même difficile, un peu partout sur la planète. Là. Quel mot aurais-tu pour tes collègues journalistes en Haïti Afin de leur donner ce mot d'encouragement, toi qui es venu recharger tes batteries dans le froid, je ne sais pas si on déchargeait, mais à faire rencontrer la famille, bon voilà. Quel mot d'encouragement aurais-tu pour tous ceux qui pratiquent la profession de journaliste dans la francophonie? Tu t'adresses à la caméra et ce sera le mot de la fin.
La francophonie, mais je dirais que surtout, en tout cas pour Haïti, ce que je trouve magnifique, puis c'est ça qu'on ne montre pas souvent, c'est vrai pour la question de la militance féministe, par exemple, c'est vrai, mais aussi pour le journalisme, on est quand même un dynamisme, même si c'est très fait avec des moyens vraiment dérisoire. Il y a un dynamisme certain dans la communauté journalistique. Il y a beaucoup de journalistes qui essaient, ou de jeunes en tout cas, qui essaient d'entrer dans le domaine. C'est un domaine qui est plus respecté que jamais, si on compare avec des moments comme la dictature. La liberté d'expression, le fait qu'on puisse critiquer, qu'on puisse dire les choses qui se passent comme telles en Haïti, puis que je puisse retourner demain matin sans avoir peur pour ma propre sécurité, c'est quand même des choses qui sont quand même dynamiques, disons ça, en ce moment. Je parlais de la militance féministe, c'est la même chose. Les groupes féministes sont très puissants en Haïti. Ils ont eu des réformes majeures avant beaucoup d'autres pays des Caraïbes. Ils ont été très, très précurseurs à plusieurs niveaux. Mm-hmm. C'est souvent des choses qu'on oublie de dire, c'est qu'il y a quand même des gens qui sont sur le terrain, comme ces journalistes-là. J'imagine que c'est la même chose dans d'autres pays de la francophonie, mais qui sont là chaque jour à vouloir rapporter ce qui se passe, puis à vouloir... montrer ce qui se passe, puis à donner la parole aux gens qui n'ont pas la parole. Donc, c'est vraiment une mission qui est quand même assez noble. Puis donc, c'est pour ça que j'encourage toujours les gens à continuer.
Tes parents, terminés, sont-ils fiers quand la famille, quand ils voient... C'est Étienne qui a écrit un autre article dans la presse. Ouais, il est à Radio-Can. La réaction de la famille de voir que... fait un si beau travail et surtout ton amour pour ce peuple qui ne l'a pas toujours facile. Leur réaction, vite.
Oui, ben, je pense que oui, là, ma mère est très fière.
Tu me dis, tu rouges un peu.
Les gens, ils me suivent, mais c'est juste dommage, puis j'espère que le pays va aller le mieux. Puis c'est juste dommage parce qu'en ce moment, tu sais, c'est difficile de parler. J'essaie de parler culture, j'essaie de parler musique. Tu sais, des fois, j'essaie d'être à Ici Musique ou être avec Pogona ou avec d'autres pour parler de Dauphinou ou pour parler d'autres choses que juste ce qui va mal. Puis en ce moment, c'est très difficile de le faire parce que c'est vraiment une situation critique. Mais j'espère que je vais pouvoir retourner sur ça parce que pour moi, c'est ça qui me fait le vrai plaisir, c'est de pouvoir parler des bandes à pied. Les DJ, la musique rap, puis ce genre de choses-là. Tu sais, je veux parler de ces choses-là.
Rabodaï,
évidemment. Je veux parler de Rabodaï, j'aimerais ça écrire sur le Rabodaï, j'aimerais ça parler de...
La culture des tissus.
De la rue, des fêtes de rue.
Ouais, c'est ça.
Des fois, il y a des choses c'est vraiment chouettes qui se passent, mais j'y arrive pas parce que en ce moment, c'est un peu... C'est une réalité, mais qui est très... si on veut...
À quand un livre?
Très rabaissé.
Les mémoires de Côté Paluc.
Ben, il faudrait trouver un financement, mais c'est difficile de s'arrêter puis d'arrêter de payer... C'est ça la réalité du travailleur indépendant. Mais peut-être un jour, j'en ai déjà parlé, peut-être qu'avec des gens, je ne sais pas, un jour peut-être que je vais me décider.
Étienne Côté Paluc, brun, ça a son entrevue que je n'ai pas oublié, ou qu'on paye à comme si dans tout un d'un. Ou voyager à Haïti, ou qu'on le monde, ou m'écrivez sous plateau. Ou qu'on tout le monde qui est sous plateau, qu'on notre podcast. Nous pas miser. Est-ce que après ton petit 10 minutes avec nous, parce que nous
avons
besoin de notre invité là.
Sans problème.
Donc, mon cher, tout le monde a vu que nous sommes passés avant là. Et puis, non, les jours sur Haïti, c'est incroyable.